cette indignation et sa portée et son sens. Et vous avez évoqué le Conseil national de la résistance et son programme, et qui a été finalisé peu avant que vous soyez que vous atterrissiez en France, puisque vous aviez rejoint De Gaulle en Angleterre et que vous êtes entré en résistance. Vous revenez à Paris. Peu avant, ce programme a été finalisé. Le principal rédacteur, je le rappelle ici, s'appelait Pierre Ginsburger, qui était alsacien, qui était le fils d'un rabbin de Schulz dans le Haut-Rhin. Donc il y a un lien avec l'Alsace très fort. Roger Ginsburger, pardon, qui s'appellera plus tard, c'est son nom de résistant, Kerbieux, et qui sera député. Alors, je continue. Une des autres critiques qui est faite contre ce livre, c'est « Monsieur Hessel regarde le XXIe siècle avec des lunettes du lendemain de la guerre, et ce qui a été pensé, imaginé, construit et posé à l'époque est aujourd'hui complètement dépassé avec la mondialisation, avec un certain nombre d'autres processus qui ont été à l'œuvre depuis, et donc ce programme est dépassé. »
Alors à ça, il faut, je crois, répondre avec précaution. Il est évident que le début de la première décennie du XXIe siècle que nous sommes en train de vivre est extraordinairement différent à beaucoup d'égards de ce qu'étaient les années 1943-44-45 en France chez nous. Donc, que le contexte soit totalement différent, inutile d'y insister. Mais quid des valeurs fondamentales? Ce qui fait, à mon avis, le prix du programme du Conseil national de la résistance, prix très élevé, c'est qu'il a été rédigé par des gens qui n'avaient aucun pouvoir, qui n'avaient aucune possibilité d'appliquer les valeurs qu'ils proposaient, et qui était dans la clandestinité et qui rêvait à ce que devait être la France lorsqu'elle serait enfin libérée. C'est un rêve, mais c'est un rêve intelligent. C'est une utopie pour l'époque, c'est pas le maréchal Pétain qui avait appliqué le programme du Conseil national de la résistance, c'est une utopie, mais c'est une utopie très intelligente, parce qu'elle se fonde sur des valeurs qui, elles, sont éternelles. Il y a des valeurs éternelles, et vous le savez, chacun et chacune d'entre vous sait bien que quand on parle de la domination de la finance sur le travail, c'est quelque chose qu'il faut combattre, quel que soit le moment où ça se passe. Quand on parle de la nécessité d'une presse libre, d'une sécurité sociale pour tous les défavorisés, couvrant les vieux, couvrant les handicapés, on parle là de valeurs éternelles qui ne sont pas plus importantes en 1944 qu'elles ne le sont en 2010 et 2011. Donc, si nous nous sommes référés à ce texte, c'est qu'il a pour nous une valeur historique forte, c'était un moment fort, mais qu'il a pour le monde entier une valeur qui est véritablement le fondement de ce que nous appelons la démocratie. La démocratie n'est pas d'une période ou d'une autre période, elle est de tous les temps. Elle est une aspiration qui reste très insatisfaite encore 60 ans après et qui mérite aujourd'hui la même indignation lorsqu'elle n'est pas satisfaite qu'elle le méritait quand nous étions dans la clandestinité ou à Londres auprès du général de Gaulle. Bon, voilà donc pourquoi il me semble que le retour à des valeurs anciennes n'est pas une façon d'oublier la différence entre 1945 et 2011, mais de dire la différence ne doit pas en aucun prix nous faire oublier et nous faire ignorer et laisser de côté des valeurs qui, elles, ont pu être exposé à un moment critique de notre histoire, la clandestinité, et qui aujourd'hui ont encore toute leur justification.
Anne Jung